Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et la dernière fois, on vous a laissé sur un cliffhanger insoutenable. Scott qui allait peut-être arrêter le podcast, qui allait arrêter le stand-up, qui allait peut-être arrêter de respirer. Mais il est là, il a déjoué le sort. Scott
Bon.
Fins.
Ouais, salut les darlings, ça y est, je suis là. Vous avez de la chance et voilà, vous êtes heureux et je vous comprends.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Commençons. On va le dire de suite, si vous venez pour un épisode full stand-up, il va pas y en avoir beaucoup,
Non.
parce qu'on n'a pas vu grand-chose cette semaine. Ça ne nous empêchera pas d'en parler.
Ah oui, j'ai essayé de me forcer quand même. J'ai regardé, j'ai essayé de me forcer, mais bon, il me reste 10 minutes à finir le spectacle qu'on avait prévu de voir pour en parler à ces merveilleux auditeurs.
Non, mais c'est pas grave, on est là, on enregistre le podcast. La priorité, c'est Scott qui... La dernière fois, tu nous as dit, je ne serai peut-être plus là pour le podcast. Je me suis inquiété, je n'étais pas bien. J'ai reçu des messages. Qu'est-ce qui se passe avec Scott? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, Scott, vous savez, vous êtes très bien placé pour entendre la voix de Scott. Et la voix de Scott, c'est le gagne-pain de Scott. Au-delà du stand-up, je gagne ma vie avec ma voix. Et il y a un moment, il y a un légionnaire, un lieutenant de la Légion étrangère qui m'a embauché pour faire la voix d'une vidéo commémorant un truc de la Légion. Et donc, quelqu'un au cabinet du chef de l'état-major des forces armées a beaucoup aimé ma voix. Il a dit, waouh, ce mec est extraordinaire, il faut qu'il vienne. On a la célébration des 70 ans de la bataille de Bien Dien Phu. Et donc, ils aimeraient une évocation historique de la bataille et que je sois sur place à Pau pour lire ça devant tous les chefs d'état-major, machin, les vétérans, tous les soldats, etc. Il y avait une grosse cérémonie de remise de médailles et tout. Et donc, moi, j'y suis allé pour lire une évocation historique, donc un truc de 5 minutes. Et j'y vais, j'ai demandé, sinon, il y a un chapeau, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit non.
C'est normal, c'est logique, il faut se faire récompenser.
Ah oui, c'est ça. J'ai demandé, sinon il y a beau chapeau. Il dit non, il n'y a pas de chapeau. Mais par contre, je peux essayer de négocier un saut en parachute. Et je me suis dit, ah, rien de mieux que d'aller mourir à Pau le 7 mai et d'arrêter avec le podcast. Donc je croyais qu'ils allaient me balancer d'un avion. Mais non, ils l'ont pas fait. J'ai demandé sinon, pour le saut, le monsieur qui m'a accueilli m'a dit, ne vous inquiétez pas, l'armée sait toujours se montrer reconnaissante avec des gens qui rendent service à l'armée. Donc, si vous en dites que vous aurez un saut, sûrement un truc Saint-Michel, j'ai rien compris, ils vous proposeront un saut. Donc, c'était pas hier, j'ai cru que c'était hier, c'était pas hier. Et du coup, je ne sais pas si jamais je vais sauter en parachute avec l'armée.
Donc, mais tu as fait la commémoration quand même.
Ah oui, et c'est un truc, waouh.
C'était le 7 mai, c'est ça?
C'était le 7 mai, ouais.
7 mai, alors on rappelle, hein, il y a quand même 4 000 morts du côté vietminh, 2 000 du côté français. C'est une belle bataille, quoi.
Alors, c'est une bataille que la France a perdue, surtout. Et c'est ça
Ouais.
qui est intéressant, et que ils savaient qu'ils étaient perdus, ils savaient qu'ils allaient sûrement mourir, et il y a beaucoup de soldats et beaucoup de légionnaires à qui on a dit, bon, les gars, ils sont là en train de se faire taper sur la gueule, qu'est-ce qu'on fait? Et tous ont dit, on saute, on va les rejoindre. Même les blessés et tout ça. Et sachant que c'était perdu d'avance, il y avait zéro chance de gagner cette bataille. Et ils sont quand même allés. Et voilà, ils sont quand même perdus. Donc, il y a plus d'11 000 qui sont faits prisonniers. Il y a un tiers qui est revenu en France. Il y a un truc de fou.
Ouais,
Et moi, ce
c'est
qui m'a
triste.
touché, c'est que c'est une défaite qu'on va signaler. Et c'est voilà, c'était impressionnant.
Écoute, bravo en tout cas d'avoir fait ça, c'est cool. Et on peut le dire, c'est vrai que pour avoir fréquenté pas mal de légionnaires, c'est vrai qu'ils ont ton profil, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont d'un pays, qui parlent français avec un accent eux, ils ont appris le français avec quelqu'un qui n'était pas français, donc en général, ça donne un mix où tout est possible. Tu pourrais te faire passer pour un légionnaire, toi.
Ah oui, bah oui, ah oui, sûr. Ah oui, je peux. Mais c'est en tout cas, c'était très bien. Ils étaient très contents. Il pleuvait comme de fou. On était là sous la pluie, tout le monde au garde à vous, etc. Machin, voilà, c'était une. Ouais, bah, on aurait pu tous rester chez soi. Ça aurait changé rien.
Ouais.
Mais on s'est rassemblés. Et voilà. Donc,
C'est
c'était
juste.
ça l'histoire.
Alors, bah, je vais te raconter deux trucs que j'ai appris avec les légionnaires.
Vas-y.
Le premier truc, c'est déjà, un légionnaire, il a des frères. C'est-à-dire qu'un légionnaire laisse pas un autre légionnaire en galère. Alors, je les ai vus toujours céder parce qu'ils se mettent dans des plans où ils vont à une salle de sport, mais ils savent pas comment rentrer. Ils savent, voilà, ils savent aller à des endroits, mais ils savent pas revenir. Ils arrivent toujours à se débrouiller entre légionnaires.
Ouais.
Même s'ils se connaissent pas, ils sont solidaires. Et aussi, un truc, c'est que dans le sport en tout cas, c'est ceux qui se donnaient le plus à fond. C'est-à-dire, n'importe quelle consigne, ils la font même trop. C'est des gens qui sont dans l'abus, à mon sens, hein. Mais c'est vrai que tu leur dis de faire tel mouvement, ils ne savent pas mal le faire. Ils vont le faire à fond, à fond, à fond.
Ouais.
Et ils se fatiguent sur les trucs où il ne faudrait pas se fatiguer, mais bon, c'est leur façon de faire, ils se donnent.
Ouais. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est l'amour qu'ils ont pour les anciens. Ça, c'est très drôle, parce qu'il y avait beaucoup de petits vieux avec leurs petites médailles et tout. Et ça, c'est drôle. Moi, comme un con, je suis un paysan au fond. J'arrive, il y a un monsieur avec plein de médailles. Il me dit, vous êtes qui? Mais je suis personne, moi, je viens lire le texte. Ah, très bien. Et c'est pour ça que je vous regarde les médailles. Et ça, c'est quoi cette médaille? Il me fait, ça, c'est la Légion d'honneur.
Ouais.
Comment, quoi? Ah, sympa, merci. C'est drôle, putain, c'est genre la gifle. Un mec qui porte la Légion d'honneur et il y a un con qui vient lui demander ce que c'est. C'est quoi
Mais
ça?
non, mais je pense que c'est mieux. Vraiment, il vaut mieux demander, surtout
Ah
dans le
oui.
truc, quand c'est pas tes codes, il vaut mieux
Ah
demander et
oui.
avoir. Et la prochaine fois que tu verras, tu y penseras.
Ah oui.
Et pour lui, ça porte bien son nom, c'est de l'honneur. C'est-à-dire, je pense c'est même un honneur de te le dire
Ah
qu'il a eu
oui.
ça et.
Légion d'honneur. Waouh. C'était très drôle. Mais les petits jeunes, là, et tout le monde, on dirait que c'était tous les petits-enfants de ces vétérans-là. Il y avait des capitaines d'Algérie, il y avait des gens qui étaient à la bataille de Bien Dien Phu et tout ça. Et voilà, quoi. Ils sont là aux petits oignons, à les porter, les fauteuils, machin, etc. Nos anciens, toujours, toujours aux petits soins avec eux. Vraiment plus que même dans une famille, quoi. Parce que dans une famille, c'est le vieux qui casse les couilles. Là-bas, c'est autre chose, quoi.
Ouais,
C'est.
c'est autre chose et
Ouais.
c'est surtout, je crois qu'il y a un truc. Ils ont une mentalité qu'on peut retrouver des fois aux États-Unis, c'est quand tu vois les films américains, qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi j'ai fait mon service ou je suis allé en Afghanistan. Il y a tout le monde qui leur répond, merci pour votre service. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que c'est un sacrifice que ces gens-là font pour la patrie, Et tu peux être d'accord, pas d'accord avec la politique militaire américaine ou quoi, tu dois reconnaître que ces gens-là font un sacrifice dans un don de soi pour le pays. Et ça,
Oui,
c'est une
mais
mentalité
plutôt.
que les légionnaires ont et conservent. Et deuxième truc, ouais, avec les légionnaires qui m'a surpris, il y a dans une autre vie, je travaillais pour un huissier et je faisais du recouvrement de dette.
Ouais.
Et il m'est arrivé de recouvrir la dette d'un légionnaire, vraiment un costaud des pays de l'Est. Et le mec, il est venu au guichet et vraiment très costaud. Personne ne voulait le recevoir. Et je dis, bah, ça va, j'y vais.
Je fais du stand-up.
J'y
C'est
vais.
moi, je fais du stand-up.
Donc, je vais le voir. Et le mec, bon, était fort poli, très mesuré. Et moi, ouais, le but, c'était quand même qu'il solde son dossier, qu'il paye tout ce qu'il avait à payer le plus vite possible. Mais ce n'était pas le genre de mec à qui tu pouvais mettre une pression incroyable parce que. Mais je lui ai dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas quand même demander à la Légion de solder votre dossier. Et il fait, non, non, il fait, moi, si je demande, on me prend un coup de pied au cul. Hein. Je n'ai pas le droit d'avoir des dettes. En fait, ils n'ont pas le droit de contracter des dettes.
Ah ouais.
Et moi, je n'avais pas de levier vraiment pour agir dessus. Par contre, il y a un truc qui était formidable, c'est la parole donnée.
Bah oui.
Lui, sa parole, elle valait des écrits. C'est-à-dire, quand il s'est engagé à payer telle somme, tel jour du mois, il a toujours payé telle somme, tel jour du mois, et il n'y a jamais eu de problème avec ce gars.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça. C'est vraiment un code, c'est une façon d'être dans la vie, quoi.
Ouais, et c'est ça que j'aimerais. C'est ça que j'aimerais insuffler aussi dans le milieu du stand-up, c'est des codes, c'est-à-dire une façon de voir. Et là, j'ai eu de très bons exemples récemment dans les différentes villes et tout, de m'apercevoir que ce qui est insufflé par les plus forts, les plus anciens et tout, ça ruisselle. Si c'est bon, ça ruisselle et on a des choses positives. Si c'est tordu, ça ruisselle et il y a des gens tordus. Après, une façon de penser qui est bizarre. Donc,
Moi, j'ai une
pour.
idée. J'ai une idée de fou.
Vas-y,
L'autre jour, j'allais m'endormir et je me suis dit, j'étais en train de réfléchir. J'ai une idée de fou pour le stand-up.
Vas-y.
J'allais faire une blague de me branler avant de dormir, mais je n'ai pas trouvé. Donc moi, je laisse quand même l'intention, et c'est pour ça que j'ai ralenti. Alors, l'idée, est-ce que...
Tu sais qu'on a... Non, mais juste de dire,
Vas-y.
tu sais qu'on a un auditoire féminin du podcast.
Oui, c'est pour ça que je n'ai pas fait la blague.
Mais...
Je me truc débile encore plus. Non, non, alors, l'idée. Et là, j'aime bien les idées parce qu'on... Bon, avant l'idée, petite parenthèse. Maintenant, je parle aux gens, je vais leur dire des trucs, ils me disent, ah oui, non, tu l'as dit dans le podcast.
C'est vrai.
J'ai l'idée,
Mais
j'ai
dis-le
le
quand même,
sentiment
dis-le
d'être
quand même.
un vieux gâteux qui radote. Parce que les gens disent, non, non, j'ai déjà entendu. Même des trucs que j'ai jamais dit, il ne faut pas m'entendre. Ils disent, non, non, c'est bon, t'inquiète, j'ai entendu.
Eh oui, mais parce qu'après, on est à 140 épisodes podcast, c'est normal qu'on ait répété les choses, qu'on redise les choses, c'est pas grave. Et si vous les avez entendues, vous, dans vos écouteurs, il y a une semaine, peut-être qu'on les a dit il y a plusieurs mois, donc nous, c'est jamais si frais que ça dans notre tête.
Ouais, c'est sûr. Et donc, mais ce qui est drôle, c'est que quand je te soumets une idée et que tu m'envoies chier en direct ici dans le podcast, c'est très drôle. Parce qu'une fois, je t'ai dit, ouais, Alex Fitou était là. Je m'en fous d'Alex Fitou, machin, machin. Et qu'est-ce qu'on a rigolé avec Alex Fitou quand il a entendu l'épisode? Il était mort
D'accord.
de rire. Voilà, c'était drôle. Donc, voilà, l'idée, attention, c'est de créer un label de stand-up réglo. Le stand-up réglo. Ce qui voudrait dire que quelqu'un pourrait se porter garant, entre guillemets, qu'une soirée stand-up, un spectacle, c'est du stand-up réglo. Ce qui veut dire qu'il y a une licence de spectacle, il y a un contrat avec le lieu, et les artistes sont payés au cachet et ils sont dans un parcours d'intermittence. Et ça, genre, c'est un peu le halal du stand-up. Et qu'on puisse dire, OK, ici, on fait du stand-up réglo, plutôt que du stand-up pirate.
Réglo pour qui?
Pour tout le monde, sauf pour le public. Donc je rigole.
Ah, mais
Et
il va
ouais, pour tout le
falloir.
monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire voilà, les artistes sont payés au cachet, ils sont déclarés, il y a
Donc, c'est
tout
réglo
la
au niveau de
légalité,
statut.
statut légal et tout ça.
Alors, plusieurs choses. Déjà, quand. Donc, c'est intéressant de se dire on va poser un label, on va faire quelque chose, on va encadrer ça. Déjà, on sous-estime à quel point les gens ne veulent pas être encadrés. Il y a plein de gens, des organisateurs, que ça arrange de ne pas être encadré. Moi, j'ai des organisateurs dans le pays d'Aix qui, ça doit faire 3 ans qu'ils, entre guillemets, produisent des spectacles. Ils n'ont jamais déclaré un cachet alors qu'ils pouvaient largement le faire. Ils n'ont jamais fait l'effort de comprendre ce que c'était un cachet. Et à contrario, j'ai des mecs dans la région de Nantes, Carton Comedy Club, qui, direct, se positionnent en disant non, nous, quand il y a quelqu'un qui monte sur scène, on fait des cachets et on est réglo. Et ils sont sur exactement les mêmes économies, vraiment, même jauge, même type de profil d'artiste et tout. Il y a juste des gens qui veulent le faire, des gens qui ne veulent pas le faire. Des gens qui veulent le faire parce que philosophiquement, ça leur parle et ils se disisent, bon, c'est comme ça que nous, on traite les gens. Et des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils disent, si on était un peu plus gourmand, si on filait juste un billet de 50 euros aux autres. Et que, parce que, attention, un organisateur qui vous file 50 euros, quand il a fait 200 entrées, le delta entre les 50 euros et les 200 entrées, c'est dans sa poche. Hein.
Ah oui.
Donc, on sous-estime la cupidité aussi des gens.
Ah oui, mais j'ai vu des trucs ici. Tu dis waouh! Tu dis waouh! 80 personnes qui payent 10 balles pour à l'entrée et l'artiste est payé au chapeau après. Tu dis waouh!
Voilà.
Voilà. Tu dis 800 balles de recettes et les gens qui ont payé l'entrée donnent ensuite au chapeau pour l'artiste et pas de cachet, que dalle. Et tu dis waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je l'ai vu pour du charity business, moi je l'ai vu pour des associations, des gens qui arrivaient carrément à dire on joue pour une association et garder l'argent. Je l'ai vu à Marseille pour les associations pour de l'équithérapie, c'est-à-dire pour de la thérapie pour les enfants handicapés avec des chevaux. La personne a organisé la soirée et n'a rien reversé à l'association.
Ah ouais.
Et c'est des gens, et ça implique des gens, des noms connus, hein, mais c'est-à-dire que les artistes qui viennent. Eux, ils pensent jouer gratuitement pour une cause qui leur tient à cœur et on leur fait ça. Donc, c'est.
Après, qu'est-ce qu'un cheval va faire avec Bambad? Rien, il peut pas aller dans
Faire ça.
ça. On va faire un chèque à un cheval, c'est nul.
Et du coup, quand on parle de réglo, il y a aussi un autre truc, c'est que là, il y a un label qui a été lancé, une volonté de lancer de. En fait, d'un peu assainir. Le milieu du stand-up. Donc, il y a un label qui était lancé pour engager des artistes qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de dossier, pour faire un stand-up plus inclusif, tout ça. Et
C'est pas la
c'est pas.
charte des Comedy Club, nous?
C'est ça, la charte des Comedy Clubs. Mais tu vois, dans la charte des Comedy Clubs, on peut très bien venir te dire, ah, mais tu as fait une blague, Scott, où tu disais que le soir, tu te masturbais, mais c'est trop. C'est une façon de faire qui est trop agressive pour une certaine partie de la population, tu vois. Et je ne sais pas où s'arrêterait la limite. Si on part sur les idées, je ne sais pas qui fixe cette limite-là. Je ne suis
Ah
pas.
oui, non, ça
Je suis pas à l'aise avec cette idée-là.
c'est le... Ouais, ça c'est très délicat. C'est très délicat parce que, bon, sachant que chaque comedy club a sa ligne éditoriale et ils peuvent vouloir ou pas de certaines personnes, parce que c'est tout à fait leur droit, comme c'est
Tout
tout
à
à fait
fait.
leur droit de chaque humoriste d'être raciste, homophobe et tout ce qu'il veut et de faire des blagues dessus. Après, libre aux autres de ne pas le programmer. C'est très clair. Après, s'engager en tant que comedy club à aller fliquer les artistes,
Pas
c'est
évident.
compliqué.
Et sans les fliquer, les juger. C'est-à-dire, parce que souvent, les jugements, on va dire, ah, Briac, on m'a dit qu'il avait un humour X ou un humour Y. Et donc, c'est on te rapporte que et tu vas me programmer en fonction de ça.
Ouais.
Tu l'as même pas constaté. Quant au fait de proposer, de dire, écoute, ce Comedy Club, il est réglo ou il n'est pas réglo, j'ai l'impression que ça n'intéresse que les artistes. C'est-à-dire que les seuls bénéficiaires à ça, c'est les artistes, pas le public.
Mais le public, il peut choisir, se dire, OK, je vais là et je contribue. Parce que bon, c'est un acte aussi, au moins à Toulouse, parce que tu peux voir tout le monde, partout, tout le temps. Et les gens, ils s'en foutent. Ils ne voient pas la différence entre le plateau A et le plateau B.
Est-ce qu'ils verront la différence entre le plateau qui traite bien les gens, le plateau qui est un peu plus
Ça peut
laxiste?
être un argument justement de vente de ce plateau, dire, OK, venez ici, c'est du stand-up réglo. Et ici, voilà, les artistes sont payés, etc. Vous payez une entrée, c'est plus transparent. Mais je ne sais pas, c'est
Je
parce
vais
que
te donner
sinon,
un exemple très bête. Un mec qui va s'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques, il va aller sur ton plateau réglo. C'est un artiste. Tu l'as appelé, il est tellement content, il est allé sur ton plateau réglo et le public l'a vu sur le plateau réglo, il a eu son cachet. Mais Jean-Jacques, lui, il veut jouer. Donc il va aller aussi sur tous les plateaux pas réglo.
Ben oui.
Il va dire, ah oh non, l'autre c'est bien les réglos, mais bon, là je suis content de prendre du chapeau aussi. Et puis non, mais je suis pas tout à fait d'accord avec être réglo. Bon, je sais que vous pouvez pas vraiment. Tu vois, chacun cherche des compromis. Et ce que tu fais pour les artistes, des fois, ça se retourne presque contre toi.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas. C'est ça, moi il y a ce problème ici. Là, par exemple, je produis un gars en théâtre, je loue le théâtre pour faire son spectacle, mais il a fait le spectacle 3 ou 4 fois, entrée gratuite, sortie au chapeau. Et pour notre date, mais comment on va faire ça? Parce qu'on doit payer le théâtre. Et s'il y a des gens, ils mettent des pièces dans le chapeau, comment on fait? On va payer pour jouer. Et moi, je vais payer pour te faire jouer. Donc, si on met une entrée normale d'un théâtre, on met une entrée à 12 euros, et que les gens peuvent voir le même artiste, le même spectacle, gratuit dans un bar ou 12 euros dans un théâtre, peut-être qu'ils vont choisir le bar et laisser au chapeau.
Mais
Et
c'est
ça,
là cette
c'est très
expérience.
compliqué, quoi.
Mais là, c'est là où tu dois agir en tant que producteur.
Et moi, je dis,
C'est-à-dire.
on met 12 balles l'entrée, et on s'en fout. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Mais voilà,
Non, mais il n'y a pas que ça.
on va
C'est, est-ce
aller
qu'il
là.
y a, est-ce qu'il y a une élasticité prix-demande? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, une baguette de pain, tu l'augmentes de 5 centimes, la personne qui veut du pain, quand tu dois racheter, pourtant, il y a une augmentation de prix.
Ouais.
Et il y a d'autres produits où si tu augmentes, ah, de suite, ça freine. Et là, est-ce que dans le spectacle, est-ce que ce qui fait que les gens viennent au spectacle, c'est le prix? Est-ce que c'est la promesse? Est-ce que.
Mais
Ouais, je suis pas sûr que le prix, ce soit vraiment un frein au spectacle.
moi non plus, c'est pour ça
Mais c'est
que je
culture, c'est une
revenais.
culture.
Mais c'est marrant parce que même la valeur perçue du spectacle n'est pas la même. On a fait un truc, j'avais loué une péniche pour faire un plateau et il y avait des gens qui venaient au spectacle. On avait
Oui?
mis un prix d'entrée, les gens viennent au spectacle.
Oui.
Genre, ils vont pas au stand-up, ils viennent au spectacle. C'est très drôle parce que c'est
Un
même des
spectacle que tu
catégories
payes.
différentes. Ah oui.
Ben, paye-le au chapeau, mets 5 euros au chapeau, et maintenant paye 25 euros au spectacle. Tu vois que ta perception au spectacle est très différente. Pour avoir payé 140 euros chapelle, je vais te dire que j'étais plus enclin à le justifier que si j'avais payé 10 balles pour aller voir chapelle. J'aurais fait, ouais, bon, pas en forme, j'aurais pu partir au milieu et tout. Non,
Ah
non,
oui,
il
c'est ça, c'est
faut.
intéressant.
La valeur perçue est très très importante et Et pareil, en France, on plafonne un peu le prix des billets alors qu'il devrait des fois être plus cher. Mais vraiment, je dis, c'est pas un problème et il faut pas avoir honte de mettre ses places à 15-20 euros. Et à dire non, je pense que c'est ça le prix parce que le spectacle, au final, comme tu le dis, qu'il le joue dans un bar ou qu'il le joue dans un théâtre, c'est exactement le même spectacle, on est d'accord? La seule différence, c'est que s'il le joue dans un bar gratuit, ça devient un spectacle de bar gratuit. S'il le joue dans un théâtre payant, ça deviendra à jamais un spectacle payant qui vaut cet argent-là. Et c'est un message aussi qu'on fait passer, c'est un positionnement. Il faut, toi en tant que producteur, il faut que tu fasses avoir cette croyance que ce qui fait, ça ne vaut pas rien, que ce qui fait,
Ben oui.
ça.
Ben oui. Oui, mais il y a, ça, depuis que je suis dans le monde du stand-up, je remarque qu'il y a une sorte de corpus de sagesse populaire que personne ne sait d'où ça vient, mais ça traîne un peu comme ça et tout le monde, je sais pas, c'est accepté, mais c'est pas dicté par quelqu'un. Genre, il faut faire genre 3 fois 10 minutes avant d'avoir un 30 minutes. Il faut faire, tu commences à faire des 30-30. Et après avoir fait quelques 30-30, tu penses à faire ton spectacle. Après ton spectacle, machin, tu essaies de vendre ton spectacle. Il y a il y a une sorte de chemin qui s'est dessiné tout seul, on dirait.
Qui est faux, qui est absolument faux,
Ah oui?
ah, si vous avez l'occasion de lire la biographie d'Elon Musk, il a un principe, c'est il revient toujours au principe premier. C'est-à-dire, ok, je dois envoyer une fusée dans l'espace, ça veut dire quoi? Donc j'ai un objet qui doit s'élever dans l'espace. Ah, donc vous le faites comment? Avec tel carburant? Ok, ça c'est pour qu'il s'élève. Mais moi je suis pas obligé de faire ça. Je peux utiliser des ondes gravitationnelles, je peux utiliser de l'électricité, je peux faire ce que je veux. Parce qu'à ce stade, c'est juste les principes premiers, je dois juste faire qu'il s'élève. Ah, il faut qu'il y ait une force qui le pousse. Donc je peux remettre en question la force qui le pousse. Maintenant, vous m'avez dit le réservoir, il y a combien? 8 mm d'épaisseur? Qui c'est qui a décidé ça? Donc quand tu travailles pour Elon Musk, tu dois savoir qui a fixé la règle et pourquoi il a fixé la règle et tu dois la remettre en question. 8 mm, pourquoi? Ah d'accord. Si on fait 7 mm, est-ce que ça marche encore? Si on fait 6 mm, est-ce que ça marche encore? Parce que si on fait 6 mm d'épaisseur sur le pourtour, on gagne 2 tonnes. Donc on pourra avoir plus de poussée. Et tout est remis en question. Il ne s'attarde qu'aux principes fondamentaux. Qu'est-ce que ça doit faire? Et le stand-up, c'est pareil. Moi, on me dicte une série de règles, les mêmes que toi. J'entends les mêmes règles que toi. Je dois faire ci, je dois jouer là, je dois. Je fais, mais ça ne répond à rien.
Ben oui.
Oui, il est où votre objectif? Ah, on ne sait pas. Ah oui, mais comme d'habitude, les gars, soit vous avez un objectif et vous alignez tout pour arriver à l'objectif, soit vous faites une série d'actions dans le vide
Ben oui.
parce que vous pensez que. Et je me permets, je vais citer une discussion que j'ai eue avec une copine hier. Elle, c'est pareil, elle se sent perdue. Elle m'a dit, putain, Briac, je vais reprendre la conversation Instagram pour être précis. Elle me dit, il devrait y avoir un livre sur la psychologie du stand-up. Tu vois, la psychologie d'un stand-up, parce que je vois, elle se sentait un peu perdue et je comprends. Je comprends qu'à un moment dans la vie, ça te perturbe. Et alors, je vais citer, je vais un peu paraphraser. Alors, j'ai dit, elle me dit, tu vois, en ce moment, je suis dans un mood de remise en question par rapport au stand-up. Je suis jamais fier de moi. Et ce sentiment, je le comprends. Ouais, ce sentiment, il est vachement. Je crois qu'il est partagé par plein de gens de se dire, putain, ça va pas, il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Donc, ouais, quand c'est ça, souvent. Je demande, tu dis comment tu l'expliques ça? Avec tes mots, comment tu expliques que tu es jamais fier de toi?
Ouais.
Donc elle me donne les raisons. Elle me dit, je crois que j'ai un manque de confiance généralisé. Quand je marche, je me dis que j'aurais pu encore plus marcher. Quand je marche pas, c'est parce que j'étais pas assez préparé ou autre chose ou les blagues tout simplement. Et je dis, ok, c'est intéressant, mais est-ce que tu as des objectifs clairs? Comment tu mesures si tu as marché, pas marché?
Ah oui.
Comment tu mesures si tu as été assez préparé, pas assez préparé? Comment tu le quantifies ça? Puis après, en creusant, je lui dis, c'était quoi l'objectif quand tu es venu jouer dimanche avec nous?
Ouais.
Et ouais, j'essaie de creuser, me dire, ok, est-ce que tu as accompli cet objectif-là? Parce que si c'est ça, tu peux dormir tranquille. Par contre, si tu n'avais pas d'objectif précis, Il y a comme un bruit dans ta tête. Un bruit, quelque chose qui est indicible et tu ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui te dérange et que tu ne peux pas résoudre.
Ouais.
Et voilà, et ça fait partie de ces croyances de devoir jouer, être stressé, devoir jouer à tel endroit. Par exemple, là, elle me disait sur telle scène, je ne teste pas.
Oui.
Je te dis, mais putain, c'est incroyable comment tu expliques que sur telle scène, tu ne testes pas, que même les anciens de votre endroit ne testent pas et que moi, j'arrive à chaque fois que j'ai fait cette scène-là, je suis arrivé avec 5 minutes nouvelles.
Ouais.
Et sur les
Mais c'est
5 minutes
intéressant.
nouvelles, il y a du déchet, il y a 20-30% qui ne passent pas, mais
Ouais.
qui ne marchent pas, qui physiquement, ça ne marche pas. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis venu
Ouais.
tester les copains.
Après, il y a il y a deux perles de sagesse de Greg Dean qui sont très intéressantes. On passait beaucoup de temps avec Greg dans les réunions de profs, etc. Et c'était pour moi le meilleur moment parce qu'il radotait un peu, il disait beaucoup les mêmes choses. Mais des fois, tu as 2 heures avec quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu parles souvent. Mais le fait qu'il reformule une phrase ou un truc, ça te met une claque. Et un de ces trucs, c'est que les gens viennent au stand-up en croyant que c'est une voie nouvelle dans leur vie. Alors que non, tes problèmes personnels, tu vas te les prendre dans la gueule plus tôt ou plus tard. Les premiers moments, tu es là, ah, tu es un peu inébrié, si ça jamais ça se dit, du stand-up, etc. Mais tes problèmes,
Inébrié, vas-y, attends.
c'est genre bourré, quoi. On a l'état d'ébriété,
Ah ouais,
ébriété.
enivré, on va dire.
Enivré, ouais, inébrié, c'est pareil. Selon si on veut le dire bien ou mal. Donc, tu es dans un état d'excitation, d'adrénaline, etc. Mais tes problèmes personnels, ils sont là. Donc, si tu estimes que tu n'as pas assez de valeur, que tu n'es pas assez bien, que tu ne fais jamais assez bien, que tu vas. Hein, ça, c'est un problème personnel que c'est toi qui apportes. Ce n'est pas le stand-up qui te le donne. Tu viens avec déjà. Et après, l'autre chose par rapport aux objectifs et par rapport à l'analyse du stand-up, c'est justement travailler sur des objectifs que tu peux maîtriser quand tu vas sur scène. Et le rire ne t'appartient pas. Le rire ne t'appartient pas. N'essaie pas de maîtriser le rire, il ne t'appartient pas. L'art, dès que ça sort de ta bouche, ne t'appartient plus. C'est fini. Tu n'as plus de maîtrise. Donc, qu'est-ce que tu peux maîtriser? Est-ce que mon texte, est-ce que je dis ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire quand je suis monté sur scène? Est-ce que j'ai géré ma pause? Et voilà, mais c'est des questions très spécifiques que tu te poses et que tu peux répondre oui ou non. Alors, si ça a rigolé à 30% ou 40%, ça ne t'appartient pas. Donc, c'est
Et
ça.
le pire que tu puisses faire, c'est te mettre de la pression. Je voyais, cette jeune fille se mettait la pression sur ah, je veux que les gens passent une bonne soirée, je veux qu'ils rigolent et tout. Je fais, mais tu peux pas
T'appartient
penser,
pas.
ça t'appartient, mais tu peux pas porter cette pression-là. C'est une conséquence de ce que tu fais, c'est une conséquence de ce que tu joues, de ta préparation et tout. Mais si toi, tu pars avec ça et tu portes sur tes épaules, ton cerveau, il se fait écraser par cette pression-là.
Ah oui. Et regardez le line-up, voir qui sont les autres. J'ai des cas comme ça. Ah non, j'ai vu qu'il y avait un tel et un tel. Ah non, je ne peux pas me permettre de tester quand il y a ces gens-là. Parce que je vais passer pour un débutant. Tu mets.
Mais ça, c'est que les gens pas bons qui font ça. Excuse-moi, hein, quoi,
Ah oui.
il faut pas réfléchir, il faut enchaîner. Tu peux avoir n'importe qui avant, tu peux avoir Kevin Hart avant. Toi, ça va rien changer. Il faut que tu joues à 100% et il faut aussi avoir l'humilité, se dire ben, je suis moins fort que certains, mais par contre, quand je fais mon truc, c'est cool, quoi. C'est déjà cool à mon niveau.
Ah oui, c'est ça. C'est de. Et en plus, c'est ça qui est bien dans le stand-up. C'est que les trucs merdiques arrivent au début. Et après, normalement, tu vas bider de moins en moins. Voilà, parce que chaque scène, c'est. Voilà, comme dit Boubi Rabah, c'est des heures de vol. Ok, t'as 5 minutes de plus de vol, quoi. Et donc, normalement, tu vas gagner en expérience, en confiance sur scène, etc. Et après, bon, c'est. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire du temps qu'on te donne? Parce que c'est un privilège quand même, on te donne
Tout à fait.
10 minutes pour faire uniquement et exclusivement ce que tu veux faire. Donc, ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire t'appartient. Et là, c'est là que ça t'appartient. C'est là, ok, blague proctologue ou blague sur ma traversée de l'existence et comment moi je perçois le monde. Quel est ton choix? Et ton non-choix, c'est un choix aussi. Voilà, merde.
Et c'est pour ça que si à un moment où vous sentez blasé, moi j'ai des gens qui enchaînent les chaînes qui enchaînent les scènes à Paris. Et des fois, ils sont blasés. Ils font, oh, je sais pas ce que je joue après. Et je fais, les gars, laissez votre place. Laissez votre place. Allez, allez vous rafraîchir, allez faire autre chose. Ce n'est pas ça qui manque, les gens qui veulent faire du stand-up. Laissez un peu votre place. Prenez des vacances parce que là, vous êtes aigri, vous n'apportez plus rien. Et sur scène, ça sonne creux. On voit que vous êtes désincarné, ça ne marche plus. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses. On m'a posé comme question cette semaine aussi un truc intéressant. On m'a envoyé par rapport à. Dans le guide YouTube du stand-up, je donne un outil, c'est le rire par minute. C'est-à-dire, tu comptes le nombre de rires que tu obtiens chaque minute. On m'a envoyé un message, je fais, mais qu'est-ce que tu. Comment j'utilise l'outil en fait? C'est quoi un rire? C'est quoi? Est-ce que c'est quand ça. Une personne rigole, quand 10 personnes rigolent et tout? Je dis, mais c'est. Ce n'est qu'un outil. Et c'est que toi qui fixes la barre où tu veux. Si tu estimes qu'un rire, c'était ton objectif, alors à chaque fois qu'il y a un rire, tu coches. Si ton objectif, c'est d'avoir la moitié de la salle, tu l'entends quand c'est une moitié de salle, alors tu coches que quand tu as un minimum la moitié de la salle. Mais c'est à toi à fixer ton baromètre de l'exigence.
Ah oui, et tu peux aussi ordonner justement tes blagues dont tu as le rire par minute qui peut être, voilà, c'est un outil assez sympathique qui donne une moyenne sur 10 minutes, tu vois, une moyenne. Après, tu peux classer les rires aussi. Tu peux avoir le claquage de genoux, genre, ah ah ah, genre, l'explosion de rire. Tu fais ça, A, c'est un rire top. Standing ovation, bon, c'est un A+, mais bon, tu as du A où tout le monde rigole, A au petit, ah. Ça va être genre un D, et après c'est le bide. Et tes blagues plus fortes, donc celles que tu fais en A, c'est les blagues que tu dois vraiment garder. Les B sont presque des A, donc peut-être si tu les peaufines un petit peu, elles peuvent monter.
Tout à
Mais
fait.
tu peux te dire, bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de le dire, main? Et après, quand tu fais un set, ce que le concept de Greg Dean, c'est tu fais des BCA. Tu commences par les B qui marchent bien. C'est pas un truc, c'est pas un bide, c'est pas du test. Ensuite, tu passes au C, donc au test, ou ce qui est nouveau, tu n'es pas très sûr, et tu finis par ton matériel le plus fort. Parce que c'est la dernière impression qui compte quand les gens partent. S'ils ont entendu 2 minutes de bonne blague à la fin, ils vont partir plus contents que s'ils entendent 2 minutes de bonne blague au début et 8 minutes de bide. Si tu fais 8 minutes de bide et 2 minutes fort, bon, c'est des conseils, mais c'est à
Mais ça
chacun.
marche.
Mais les gens sont accrochés quand même à leur truc, hein. Ils sont accrochés, ils ont mis du boulot à mémoriser un truc. Ils viennent te voir déjà avec un paragraphe entier. Tu leur dis de changer une virgule. Ils disent.
Non, mais c'est résistance. Alors, je
Ah
pour
oui.
bon, il y a deux choses. C'est déjà ce système de classement. Moi, je l'ai vu sous différentes formes. Il y en a, c'est des croix, des ronds. Il y en a. Là, j'ai bossé avec un copain récemment. Lui, c'était des X. Il mettait un X quand c'est une petite blague, 2 X quand c'est une bonne blague, et 3 X quand ça a été une explosion.
Ouais.
Mais au moins, son texte, quand je l'avais sous les yeux, je comprenais la biorhythmie du spectacle.
Ouais.
C'est-à-dire, OK, là, il a testé ça. Quand il n'y a pas de X, c'est soit qu'il n'a pas testé, soit que ce n'est pas drôle, donc il faut le challenger.
Ouais.
Et oui, la capacité à changer, à challenger un texte, moi, je m'aperçois que plus ces gens sont forts, moins ça leur pose de problème. Et à très, 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 très haut niveau, vraiment, tu peux changer des pans entiers. Ils disent, OK, si eux, ils acceptent mentalement et physiquement de dire, OK, tu as raison, ça va là, ça va là, ça, je devrais le dire autrement. Et je suis, pour le coup, je suis époustouflé par la capacité des mecs très forts à faire ça.
Ouais.
Et en contraste à mon incapacité souvent à digérer les retours. C'est-à-dire, tu me fais un retour, ça va taper. Puis, ça, c'est comme ça taper sur mon crâne, ça met du temps à pénétrer et du temps à se traduire sur scène. Et les modifications, moi j'ai beaucoup de latence et mon travail aujourd'hui, c'est d'enlever ces latences, de dire OK, il y a un truc qui cloche, modifie-le 3-4 fois dans la semaine pour que ça ne cloche plus
Ouais.
et pour avoir la bonne version. Et c'est tout mon travail de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est d'être plus fort pour rentrer ces retours-là.
Ouais. Il y a un autre truc intéressant, et moi je fonctionne avec c'est pas des perles de sagesse, mais c'est comme des trucs, des algorithmes. Voilà, des petites phrases qui m'orientent sur plein de trucs que je fais. Un truc, c'est une question. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux faire les trucs bien? Et là, c'est waouh! Parce que des fois, on discute tous les deux, et je me suis dit, bon, je vais pas te faire l'offense de me mettre à rationaliser. Ou à me défendre du retour que tu me fais sur quelque chose. Parce que je sais que ce serait vouloir avoir raison plutôt que de vouloir faire les trucs bien. Donc, quand tu veux faire des trucs bien, tu choisis les gens à qui tu fais confiance pour leur retour, tu acceptes que même ton opinion de toi-même n'est qu'une opinion sur toi-même et tu prends le retour. Mais quand tu veux avoir raison et tu te mets à dire « Ah oui, non, mais si j'aime bien celle-là, j'aime bien parce que c'est une transition pour machin », tu dis « Ok, bon, laisse tomber. »
Oui, mais, et surtout, dans le vocabulaire, oui, mais, c'est ça commence jamais bien une phrase, oui, mais.
C'est ça. C'est ça. En plus, on enregistre ça le 8 mai.
C'est bien joué, Scott. Ça fait partie des. Un jour, vraiment, je suis prêt à le payer. Si quelqu'un pouvait monter toutes ces blagues bout à bout, et on fait un super edit de toutes ces histoires, tous ces jeux de mots.
C'est merveilleux.
Non, on en revient à nos histoires de. Alors, parce qu'à la base, c'était les bonnes choses qui ruissellent et les mauvaises choses qui ruissellent. Et ça me donne l'occasion de revenir sur Nantes une nouvelle fois. Nantes, là, ils font un truc intéressant dans la ville. Ils se sont rendus compte que bah, ils n'arrivaient pas à avoir une parité sur les plateaux parce que tout simplement, il y a moins de femmes qui sont dans le stand-up, qui osent se lancer. Et là, j'avais une théorie sur ça. C'est que c'est le fait de donner des cours qui permet d'arriver à une parité. Pourquoi? Parce que autant nous, les garçons, on peut avoir une tendance à se dire, allez, on se lance et on demande comment se lancer. Autant il y a un frein, un peu une barrière à l'entrée qui est un peu plus forte pour une nana de se dire, ok, je vais demander comment je pourrais faire pour monter sur scène, ça. Quand c'est dans le cadre de cours payants, ça donne le droit de. Par exemple, une nana se dit, ben, je me paye ça comme je me paierais un cours de méditation, un cours de n'importe quoi. Donc, ça me donne le droit de demander d'aller sur scène. Et donc, c'est contre-intuitif, mais tu leur facilites le fait d'aller sur scène en les faisant payer. Et
Non, je l'ai vécu et c'est vrai.
Nantes, ils ont encore hacké le truc. Ils ont dit, ah non, c'est le cours qui donne la facilité d'aller sur scène, ben, nous, on le donne gratuit. Donc, là, ils sont en train de lancer un petit programme, le Micro Comedy Club, où ils vont enseigner le stand-up gratuitement et donc faire cette passerelle sur donner le droit aux gens de monter sur scène en étant formés et en se sentant légitime de monter sur scène et légitime de le demander. Alors, je ne sais pas, le gratuit, ce que ça va changer, est-ce que ça va aussi bien marcher que le fait de faire payer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle initiative et je les salue encore une fois pour cette idée-là.
J'ai un prof de stand-up brésilien qui m'a aidé à traduire le Comedy Bible en portugais. Et lui, il fait ça. Ça fait longtemps qu'il fait des cours de stand-up et il fait des prix spéciaux pour les gens racisés et je ne sais plus le terme, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais sexualisés. Je ne sais pas si c'est où. Voilà, parce
Non, mais
que.
là, on comprend l'idée. Donc, c'est pour. D'accord, quoi. Je
Voilà.
comprends l'idée.
Et ça peut être intéressant. Après, c'est tu fais gratuit, c'est un, je sais pas si c'est pas condescendant. Il y a des trucs comme ça. Il y a des, tiens, viens, ah, t'es, voilà, viens,
Parce
t'es
que
une
tu
femme,
vois, oui,
viens.
non, parce que là, tu vois, je pense qu'un des effets, ça va être, oui, à la base, c'est fait pour les femmes. Mais n'oublie pas que dans le gratuit, il y a aussi les gens qui n'ont pas les moyens de se payer cours au stand-up. Il y a plusieurs coups des gens qui ne se pensent pas légitimes à venir prendre des cours au stand-up. Des gens qui ne sont disponibles que 2 fois, hein, sur 4 semaines pour prendre un cours au stand-up, qui se disent, bon, ben, c'est gratuit, je peux venir. Je pense que ça va décomplexer plein de gens. Donc, ça sera un effet bénéfique pour plein de gens. Et c'est vrai que si d'un premier temps, c'est pour la parité, ça va être une parité aussi sur les classes sociales, une parité sur l'âge, une parité sur beaucoup de choses.
Ouais. Oui, après, moi je pense que, comme disait l'autre, égalité d'opportunité, oui. Égalité de résultat, c'est forcément moins bien. Dans le sens où, si tu es obligé, bah, si tu es obligé si tu dis, OK, voilà, ça va être paritaire, pour quoi que ce soit du stand-up ou autre chose, et il faut forcément avoir deux mecs et deux filles. Donc, si il n'y a pas assez de mecs qui veulent faire ça, bah, tu vas prendre n'importe qui. Et après, quelles sont les autres définitions de comment tu vas scinder la société? Genre, est-ce que tu mets. Voilà, les quotas, c'est un peu l'histoire de quotas.
Ouais.
Quelles sont les catégories d'humains que tu vas catégoriser pour représenter dans un plateau, dans un truc?
Mais
Si
ça
c'est sur
dépendra de
ce
ta
truc que tu veux.
sensibilité et tes combats. Je vais te donner des exemples. Là, tu as un premier temps, il y en a qui vont dire bah, c'est garçon-fille. Puis, tu as des plateaux qui sont en train de s'ouvrir ou des sensibilités plus queer ou quoi, qui eux vont dire, ben non, nous, ce qu'on veut, c'est 6 personnes sur scène de cette communauté-là. Et ça va se segmenter. Il va y avoir une vraie segmentation qui va adresser toutes les minorités. La seule qui ne va pas être adressée, ça va être, oui, les gens qui ont dominé jusqu'à présent, c'est-à-dire plutôt mon profil à moi.
Bah oui,
Bon, on ne va pas faire un plateau de mecs de 40 piges hétérosexuels blancs. Avec de l'argent, ça serait stupide parce on est déjà plutôt pas mal, quoi, déjà plutôt bien loti par la vie.
ouais. Je me souviens une fois, on est allé jouer, je pense à Dax ou à Osgore, je sais plus. Et je montre, on avait fait une publication Insta ou quelqu'un avait fait la publication. Et j'ai un pote qui a beaucoup souffert du racisme parce qu'il est. D'origine maghrébine, c'est un truc de fou. Bon, ce que ces gens-là vivent, c'est. Je me demande comment ils peuvent ne pas prendre un jerrycan d'essence et foutre le feu à tout. Mais bon, il fait, ah, encore un All White Comedy Club. Et là, quand je regarde le truc, effectivement, c'était All White Comedy Club. Mais c'était le truc de se dire, OK, quand on va jouer genre à 3 heures de route, le critère, c'est pas est-ce que c'est white ou c'est black, c'est est-ce que je peux supporter 2 heures de bagnole avec quelqu'un? Et avec qui je peux supporter ça. Et donc,
Tu es en
c'était
train de
très
t'enfoncer sur
spécial de
une
rester
idée. Tu es en train quand même de t'enfoncer sur l'idée que tu ne supportes que les blancs dans ta voiture.
là. Non, c'est pas moi qui ai fait
Ah, mais
l'annonce.
c'était pour te dire.
Ça va. Ouh, my God. Non, mais il y a des gens qui sont très chiants. Et des gens qui sont très sympas.
Mais
Donc.
le résultat, peu importe comment on le dit, le résultat, c'est qu'à la fin, il n'y a que des blancs sur scène, que ceux
Oui,
de
c'était ça.
l'extérieur. Non, mais vu de l'extérieur, les gens ne se posent pas la question de pourquoi on en est arrivé là, alors qu'il y a 1000 raisons. Hein. Mais c'est vrai que je comprends quelqu'un qui est blessé à se dire, tiens, ces comedy clubs ne donnent pas leur chance à telle personne, alors que peut-être en amont, on a fait l'effort, on a demandé. Mais voilà, je pense qu'il y a une tendance quand même, qu'il y a une tendance à plus de représentation, à donner un peu plus sa chance, à tendre un peu plus la main, et on ne demande que ça en fait. Je pense que les gens qui ne s'autorisent pas aujourd'hui à faire un stand-up ou qui sont mal représentés, il faut juste leur tendre la main et voir qui saisit les opportunités. Mais il faut ouvrir la porte. Et ça, c'est une tendance. Donc, Nantes, en faisant ça, j'ai l'impression qu'ils ouvrent une porte et ça va ruisseler. C'est-à-dire que même les plateaux plus mineurs, les plateaux plus confidentiels, ils vont se dire, hé, les gros, ils font ça. Nous aussi, on doit aussi jouer cette parité, reproduire cette parité et cette volonté de diversifier.
Oui, mais parce que de toute manière, si c'est ça qui est intéressant, c'est du moment que tu pars du principe que c'est impossible, et là c'est impossible, de faire jouer tout le monde au même moment, tu acceptes que tu vas frustrer beaucoup de gens. Donc, si tu as
Aucun
cinq
souci.
places, oui, c'est ça, donc frustrer 2 mecs blancs hétéros de plus, on s'en fout. C'est parce que c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est. Mais après, je sais pas, il y a des histoires, je sais pas si histoire d'argent, d'affinité, on fait. C'est toujours ce qu'on entend, ils font jouer toujours les mêmes, ils font
Mais
jouer leurs
oui,
potes,
mais il
ils
faut
font jouer
l'accepter aussi.
machin, et ta ta ta.
Mais il faut l'accepter. C'est déjà clairement, si j'ai un plateau, je ne fais jouer que mes potes.
Après, je me
Pourquoi je
dis.
ferais. Non, mais pourquoi je ferais autre chose? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi je ferais autre chose que jouer mes potes? Si j'ai un plateau une fois par mois et que je paye des gens au cachet, pourquoi je ferais jouer quelqu'un d'autre que mes potes?
Ah
Pourquoi
oui,
je ferais croquer quelqu'un d'autre que mes potes alors que j'ai fait tout le taf et que
oui.
c'est le résultat de 10 ans de taf et 10 ans où on mange des cailloux ensemble?
Ah oui, mais c'est ça, c'est ça.
On n'est pas des Illuminati, on n'a pas assez, on n'a pas pactisé avec le diable, c'est juste que. Pourquoi j'irais me faire chier à appeler quelqu'un d'autre alors que dans mon entourage, déjà tout ce qu'il faut pour répondre aux demandes de ce plateau en particulier. Et
Ah oui.
c'est j'accepte aussi la politique d'autres plateaux qui me disent, mais on n'a pas besoin de toi. Vieux mec, reste dans ton coin, nous on se débrouille. Et si on était sur le critère stand-up, je disais, mais putain, c'est vraiment très médiocre ce que vous faites. Je pense que vous gagnerez à avoir un mec au moins. Mais non, mais c'est pas ça leur critère.
Ben
Ils
oui.
ont d'autres critères, ils préfèrent être entre eux, avoir leur code, leur façon de consommer, voilà.
Après, c'est drôle, j'ai un ancien élève qui est venu me voir. Parce que maintenant que je suis producteur, j'ai un mec important dans le game. Il vient me voir, ouais, tu vois, ta prod et tout. Écoute, voilà, si tu as besoin de moi, je suis disponible.
Ouais.
Genre, je dis, non, mais pour jouer? Il me dit, oui. Non, mais. Besoin de toi pour jouer? Mais non, ça, j'ai besoin de personne pour jouer. Ça, il y en a. Tu soulèves un caillou, il y en a 25 qui veulent jouer. J'ai besoin de quelqu'un pour faire le taf, pour aller démarcher, pour aller visiter, pour aller organiser, pour les. Pour ça, j'ai besoin de monde. Pour aller avoir le public qui tape des mains et qui met de l'argent dans le chapeau ou que machin, ou paye un cachet, Ça, je n'en ai pas besoin. Là, j'ai l'embarras du choix. Ce que j'ai besoin, c'est des gens pour travailler. Et ça, c'est autre chose.
Ouais, mais lui, en faisant ça, il te fait, en fait, il te fait un appel du pied à te dire, je suis, tu peux me produire.
Oui.
Mais l'offre ne rencontre pas la demande.
Bah oui. Oui, c'est ça. Je sais, mais je peux te dire. Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est compliqué parce que des gens passionnés avec beaucoup d'envie, et il y en a, tout le monde a de l'envie et de la passion et envie d'être célèbre et millionnaire.
Ah.
Mais travailler, moins.
Ouais, mais ouais, je suis pas sûr, hein, que tout le monde ait envie. Ou des fois, ça se traduit mal. Moi, j'ai des gens qui veulent être les meilleurs cibles, mais ça se traduit pas sur scène.
Ouais, bah oui, ça. C'est merveilleux. Et bon.
Et je voulais parler, donc j'ai parlé de trucs positifs et aussi parler de trucs négatifs du ruissellement. C'est par exemple, à Marseille, il peut y avoir des fois un vocabulaire de la part de certains comedy clubs de hey, on va baiser le public, on va tout niquer ce soir. Tu vois, c'est anodin, hein, comme façon de parler, c'est accepté. Et je vois après ça ruisselle et je me retrouve avec des gens qui organisent des plateaux, des petits plateaux, des plateaux mineurs qui font ouais, on est tous là ensemble pour baiser le public. Pour... Je fais hey, je suis pas d'accord avec ce vocabulaire. Je suis pas du tout là pour ça. Je suis venu là pour tester mes blagues. Je suis là si le public passe une bonne soirée, c'est vraiment trop cool. Mais je suis là pour baiser personne. J'ai pas, c'est pas, ne mélange pas de vocabulaire. Je suis pas dans l'industrie du porno. Levez-moi, quoi, levez-vous ça de l'idée. Mais en fait, il répète juste de façon automatique ce qui a été dit plus haut. Il croit que c'est la bonne façon de penser. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je ne suis pas là pour baiser quelqu'un. Je suis pas du tout là pour ça.
Ouais.
J'ai des blagues. Je suis sûr qu'elles sont très bien. Et je vais juste délivrer mes blagues et on va passer une bonne soirée si tout va bien. Mais
Ouais, je comprends
s'il y a
certains.
personne qui est fécondé, ça me va très bien.
Ouais. C'est intéressant ce vocabulaire, alors que oh, c'est pareil, ça revient à la discussion de. C'était quoi le spectacle? Le mec qui a fait les trois mics, three mics, là, qui dit que, au
Ouais,
lieu, voilà, au lieu de dire tuer, on dit violer. Alors que les Américains, ils disent I'm going to kill, je les ai tués. En France, c'est plus je les ai baisés. C'est intéressant comme choix de vocabulaire pour. Ouais, parce que c'est
le fait de
dominant, c'est un
cartonner, ouais.
truc, ouais, je vais cartonner. D'ailleurs, cartonner,
Mais tu
c'est
vois, tu dis le bon mot. C'est dominant. C'est dominant. Et moi, j'étais avec des comédiennes qui m'ont dit, ce vocabulaire nous dérange. Ce vocabulaire, c'est pas ce que j'ai envie d'attendre à un comedy club. On va les baiser, on va les niquer, on va les X, on va les Y. Je dis, j'ai pas envie de ça. C'est une espèce de violence verbale qu'on t'impose. Et toi, tu veux pas ça. Tu es juste comédienne, tu as tes blagues, tu as tes histoires, tu veux juste raconter ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, quand tu me dis ah là là, se masturber avant de faire un truc, c'est une blague entre potes,
Bah oui.
mais c'est une blague, tu vois, typiquement en coulisses de Comedy Club, c'est le type d'histoire qui peuvent revenir 100 fois et que les nanas disent lourdeur, lourdeur d'entendre ça à longueur de journée, en fait.
Oui. Un copain qui disait, oh, la belle blanche. Et il lançait, il faisait la blague sur scène et il lançait comme ça du sperme sur le public et tout. Ça me faisait bien rire, surtout les gens, les bourgeois. Ça les décoiffait. Eh ben.
Alors, maintenant, on va revenir sur qu'est-ce qu'il y a eu en stand-up. En stand-up, il s'est passé quelques trucs cette semaine, en particulier parce que le festival Netflix et Joke est bas son plein à Los Angeles.
Ouais.
Donc, ce festival, il y a tout, vraiment tout le gratin stand-up qui se produit à Los Angeles. Et ils sont en train de faire un truc Netflix et qui sont en train d'essayer de faire du live. C'est-à-dire, il se passe un truc à Netflix et Joke, ils le diffusent en live sur Netflix. Donc, ils avaient déjà fait ça avec du tennis. Donc, c'est une feature qui est assez récente sur Netflix, c'est le live. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont livré? Ils nous ont livré en live le roast de Tom Brady.
Ouais, j'ai pas encore vu. J'ai vu quelques extraits, mais pas en complet.
Alors, si vous voulez le voir à l'heure actuelle, il n'est pas encore traduit, sous-titré.
Ouais.
Il n'existe qu'en anglais, sous-titré en anglais. Donc, je pense qu'il devrait le passer par la suite, par la post-production et un peu le monter, parce que là, il dure 3 heures. Il faudrait un peu l'éditer et le passer en français. Je crois que le spectacle de Kate Williams, il est dans la même config, il n'est pas en français.
Je sais pas, je l'ai regardé un peu en anglais. Je mets pas les sous-titres, donc je sais pas
On
trop
a.
si. Mais
Donc, ils ont.
c'est pas la peine. C'est pas la peine. Netflix, C'est pas la peine. Ne vous emmerdez pas.
Ah, on en parlera, alors on en parlera vraiment de Kelvila parce qu'il mérite qu'on en parle. On en parlera vraiment dans le prochain épisode, alors, si tu veux bien, que je le vois bien, que je l'analyse. Kate Williams, sachant que je pense que ça a été le vendeur le plus rapide de billets sur cette session-là.
Oui.
Tout simplement parce qu'il a bénéficié d'une polémique. Il a fait un podcast où il a éclaté Internet avec son podcast, le Shake Shake
Ok.
Club. Et donc, ça a permis de stimuler les ventes de billets très rapidement par rapport aux autres artistes du line-up. Troisième truc qui s'est passé en stand-up cette semaine, c'est qu'il y a, il y a Aziz Ansari qui est venu à Paris.
Lui aussi m'a pas prévenu.
Ouais, il t'a pas dit, et en fait, ils vont pas te prévenir tout simplement parce qu'ils préparent tous la même chose. Ils préparent le Comedy Fest d'Abu Dhabi.
Ben ouais.
Et tous, j'ai l'impression qu'ils se disent, bon, c'est pas plus mal de passer par Paris, faire une petite étape
Ouais,
et
une
rôder ce qu'on va
escale.
faire à Abu Dhabi. Ouais.
Eh ben.
Ouais, j'ai des potes qui sont allés le voir, très très bien. Maoulé, qui était là la dernière fois, il hésitait un peu et il m'a dit, ah, je sais pas s'il est encore drôle. Je t'inquiète pas pour Aziz, t'inquiète vraiment pas pour lui. A priori, le spectacle était très cool, c'était à l'Apollo. Les prix étaient plus mesurés, c'est 50 balles par rapport à Chappelle, donc c'était un peu plus contenu le prix. Donc voilà, il y a eu cette petite vague d'Américains qui sont passés par la France avant d'aller à Abu Dhabi faire leur set. Très intéressant. Netflix, qu'est-ce qu'il y a eu de très drôle sur Netflix là que vous pouvez voir? Il y a Brady Ferd qui vient de sortir un spectacle, on en parlera une prochaine fois. Et je pense qu'on va être bien loti jusqu'à septembre-octobre. Là, il va sortir, je pense, au moins 20-30 programmes issus de Netflix The Joke. Donc, on aura de l'actualité permanente pour en parler. Je vous le dis vraiment, je suis très, très, très étonné, très dubitatif du manque de culture des stand-uppers ou des apprentis stand-uppers en stand-up. Je trouve ça hallucinant que les gens ne soient pas plus curieux. On a fait une époque formidable, on a accès à beaucoup de titres. Que vous n'ayez pas une culture stand-up alors que vous voulez monter sur scène, je trouve ça super suspect.
Ouais, parce que ça part du principe que tu n'as pas besoin de connaître ton métier et d'étudier ce qui a été fait. Et donc, c'est une forme de prépotence, de prétention, ce qui est tout à fait légitime dans le sens où c'est ta vision, c'est ta lumière qui va, la façon dont toi tu illumines le monde qui va intéresser ton public. Mais le métier, c'est un métier. C'est une industrie qui fait tourner des millions et des millions et des millions d'euros tout le temps. Et c'est une vraie industrie, quoi. Donc, comme ça, je sais pas, tu n'aurais pas la prétention, parce que tu as entendu un mec jouer du piano, d'aller faire un récital. Tu vois,
Mais
tu
si tu joues
n'aurais
du
pas.
piano, tu as intérêt à étudier quand même tout ce qui se fait à côté.
Ben oui, c'est ça. Ceux qui sont venus avant toi, les codes, par exemple. Pourquoi maintenant tu vas sur scène et justement les trucs maintenant c'est vulgaire, c'est machin, il y a des trucs du choc, etc. Mais comment c'est venu, comment on est arrivé là, par où, quelles étapes on a passé pour arriver là? Parce que maintenant, c'est ça qui est intéressant, il y a des mouvements un peu de pendule quelque part. Il y avait un truc très puritain où il fallait être drôle sans choquer. Après, il y a des gens qui se sont battus pour choquer, pour pouvoir dire ce qu'ils voulaient, etc. Après, les gens qui disent, OK, dis ce que tu veux. Et donc, choc, 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 ouais, des trucs très trash. Et maintenant, on commence à se dire, OK, tu peux dire, genre, si tu viens choquer les gens, on s'en fout parce que tout le monde peut choquer tout le monde maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Et là, après, il y avait beaucoup de jeux de mots, maintenant, il n'y a plus. Donc, il y a. Donc, apprendre le métier et l'histoire du métier ne peut pas te faire de mal. Ça ne
C'est
peut que
impossible.
voilà, ça ne peut pas te faire de mal. Après, moi, par exemple, je regarde pas trop de stand-up français. Je regarde très peu. Et je suis très heureux de le faire parce que, ou de ne pas le faire, parce que quand, là encore hier, on me fait, ah oui, il fait une blague comme ça, je l'ai déjà entendu. Donc les copies comiques en français, je ne les chope pas parce que je n'ai pas les références. Ou j'ai peu de références. Donc quand quelqu'un vole une blague à quelqu'un d'autre,
Et ça,
je ne grille
c'est
pas.
un problème. Ça, c'est un non-problème, ça.
Oui,
Moi, ce que je dis,
je
c'est
suis
juste.
content de. Je suis gêné quand je vois ça, quand je vois des gens faire ça.
Non, ça, c'est encore autre chose. Ouais, je vais te donner un exemple. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Tu vas me dire une blague. Je vais te dire, tiens, regarde. Tu vois, ah, tu sais, c'est marrant. C'est la mécanique qu'utilisent Anthony et Selznick dans tel spectacle. Tu vas me dire, ah oui, je l'ai vu. C'est vrai. Attends, je vais le revoir, tu vas le revoir. Tu dis, ah oui, je pourrais appliquer ça. On a un vrai vocabulaire commun.
Oui,
On a un
c'est
vrai.
sûr.
Enfin, fais-le, essaie d'être plus. Essaie de faire une Dave Chappelle. Essaie de mettre du fond là-dedans et tout. Mais si tu ne sais même pas qui c'est Dave Chappelle, on ne peut pas parler.
Oui, c'est sûr.
Et nous, le vocabulaire avec les autres comédiens que j'accompagne, c'est un vocabulaire à base d'autres références. Est-ce que tu pourrais pas la vendre un peu plus, s'il te plaît? Essaye de faire plus comme lui. Est-ce que tu peux pas faire une chanson là, un peu comme Bob Burnham quand il fait ça? Ou alors, moi, je reçois des trucs, je fais, est-ce que tu peux regarder la 37e minute de tel spectacle de John Mulaney? Regarde l'histoire comme il la raconte, j'aimerais la raconter comme ça. Et donc, on regarde, et ça, tu lui voles rien, c'est juste, ok, l'intention, c'est ça. Et on a un
Ah
vocabulaire
oui, mais
commun.
ouais.
Et moi, entre comédiens, je veux parler stand-up avec les autres comédiens. Et parler stand-up, ça veut dire parler de nos stand-up et parler du stand-up des autres.
Ah
Et
oui.
vraiment, c'est un hack que je vous donne. Il n'y a rien de plus fort pour parler à un comédien que de parler de stand-up. Et moi, j'ai
Ah
pas envie de parler des
oui.
autres. J'ai pas envie de parler des autres en tant que les autres. J'ai pas envie qu'on me dise, putain, Scott, il est gentil, il est pas gentil. Je m'en fous de Scott, il est gentil, il est pas gentil. Ça ne m'intéresse pas. Et Elodie Arnaud, oui, elle a 1 milliard de followers. Oui, elle a 1 million de followers. Ok, c'est pas ça. Par contre, si tu me parles d'une de ses blagues, là, je suis là.
Ah
Parle-moi
oui,
d'une
ça
blague, parle-moi de son spectacle.
mais
Là, je serai toujours là.
ça c'est cool parce que et quand tu trouves des gens passionnés comme toi et vous êtes trois ou quatre autour d'une seule blague, genre d'une phrase ou deux phrases, ça c'est vraiment le plaisir ultime de savoir que tu crées de la valeur à partir de rien. Ça c'est un truc, c'est génial. C'est vraiment et moi j'ai encore du mal, j'ai pas du mal à croire, mais ça me surprend des fois encore. Qu'on me paye pour écrire des blagues pour des trucs, alors que tu dis waouh, mais c'est que des mots, c'est un enchaînement de mots que
Ah,
je fais et que les gens écrivent.
t'as encore dénigré aucun employeur dans cet épisode. Est-ce que tu vas te lancer dans.
Alors,
En général, ça enchaîne du jour.
oui,
Non. La dernière fois, j'ai fait de la merde pour un mec qui vendait de la merde. Et voilà, et à la fin, c'est de la merde.
ah oui, mais ça, c'est ça le professionnel, c'est de se dire ok, bah. Mais tu fais de la merde, mais de ton mieux. C'est une merde qualitative. Non, mais là, il y a encore ce matin un gars qui écrit un livre sans une chose que tout nouveau papa doit savoir et veut des blagues dedans. Je dis, oh, merde. Ok, qui écrit ça? Je dis, ah, c'est comme un mentor plus âgé qui dit machin. Ok, quelles sont ses opinions négatives? Ah, il n'en a pas. Je veux pas que ce soit polarisant. Je lui dis, bah, écoute, ChatGPT va faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu. Voilà, tu veux de l'humour, mais tu veux que ce soit inoffensif. Ça va être naze. Mais il veut payer 400 balles. Ah, paye 400 balles, je te mets des blagues, mon gars. Mais c'est ça qui est drôle. Quand ce n'est pas ta voix et c'est la voix de quelqu'un d'autre. Tu te mets dans la voix de quelqu'un d'autre et tu fais de ton mieux pour reproduire la voix comique de cette personne. Après, tu es
Auteur,
d'accord ou
c'est
pas
ça.
d'accord, on s'en fout. C'est ça, c'est d'être auteur. Voilà, tu fais de ton mieux pour satisfaire l'envie de cette personne. Et là, c'est un public d'une seule personne que tu dois satisfaire. Ça, c'est intéressant.
Et pour
Et lui,
maintenant, vous me posez. Ça arrivait plusieurs fois qu'on me demande comment on fait pour être auteur pour quelqu'un d'autre. Et je vais essayer d'y répondre d'une façon simple et on conclura le podcast avec ça. C'est donner. Donner sans réfléchir. C'est-à-dire qu'au début, vous avez tout approuvé, vous devez donner. Et quand je dis vous avez tout approuvé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est persuadé que vous avez une plus-value. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait vos preuves et vous n'avez pas encore un palmarès qui fait qu'on va se dire, ah oui, c'est lui qui peut agir dans cette problématique-là. Donc, la façon la plus simple de donner, c'est donner à vos amis, à votre premier cercle. C'est-à-dire si vous avez des gens avec qui vous bossez déjà en stand-up et qui souhaitent des retours, faites des bons retours. Donnez-vous du mal pour faire des bons retours, des retours constructifs, des retours que vous pensez importants pour eux et qui pourraient modifier leur stand-up. Ça, c'est votre cercle d'amis, il vous a demandé des choses. L'étape d'après, quand vous commencez à avoir un style un peu reconnu, un peu cool, il y a des gens qui vont venir vous voir, est-ce que tu peux me faire un retour? Dans ce cas-là, vous devez dire. Il y a 2 mots à dire, oui ou non. Mais soyez à l'aise avec les 2 mots. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a plein de gens à qui je dis je ne te ferai pas de retour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette relation-là et que à ce stade, ça ne sert à rien si tu es à ta première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année stand-up. Mes retours ne te servent à rien. parce que tu as juste à explorer, à continuer, à t'affirmer. Moi, je suis sur des problématiques plus précises. Et donc, si tu es un peu plus avancé ou dans des projets qui me parlent un peu plus, je fais un retour. Mais mon premier retour, je ne peux pas te dire, OK, je te fais un retour, mais ça vaut 2000 balles. Non. Tu veux un retour sur un passage de 6 minutes, je vais te faire mon retour au passage de 6 minutes et je vais le faire avec mes mots. Et que tu vendes 1 million de tickets par minute ou que tu sois sur un lancement de projet, je te ferai le même retour, c'est-à-dire que c'est technique. Et c'est ma patte à moi. C'est ma patte et je vais te parler, je vais te poser des questions, je vais voir si ça correspond à ce que tu m'as dit. Je t'envoie ça. Et ça, c'est une relation qu'on a qui est totalement gratuite. C'est-à-dire, je ne vais pas te faire payer ça, je trouve ça stupide. Et je ne vais pas t'expliquer à quel point ça va t'aider non plus, ce retour. C'est soit tu le comprends, tu l'absorbes et te dis, putain, c'est bien ce qu'il a fait ce jour-là, ce qu'il m'a dit ce jour-là. Et dans un mois ou deux, tu me rappelles, tu me dis, viens, on essaye sur le spectacle de faire pareil. Et dans ce cas-là, en tant que co-auteur, je vais rentrer dans le schéma et te dire, OK, tu veux faire ça sur le spectacle, qu'est-ce que tu veux dire au spectacle, comment on le fait, comment on s'organise, c'est quoi le planning, c'est quoi le budget.
Ah oui, c'est arrivé, quoi.
Mais au début, je te jure, il n'y a pas une conversation que je n'ai pas amorcée normalement, gratuitement et simplement. Juste, non, écoute, je vais te le faire, je vais te faire le retour que je penserai, que je te ferai, que je ferai à tout le monde. Si ça te parle, on continue. Si ça ne te parle pas, ne sois pas gêné. Je ne suis pas l'homme de toutes les situations. Même là, je bosse avec un pote sur un spectacle. Je lui ai fait 40 retours. Il m'a dit, ah, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. J'ai fait, ça ne te plaît pas. J'ai fait, c'est des propositions, c'est juste pour te faire réfléchir. J'ai fait que ce que je t'ai mis, la proposition ne te plaise pas, c'est une chose. Par contre, je peux t'assurer que l'endroit où elle est, ça adresse, il y a à minima un vide. C'est-à-dire, si je te dis là, il manque une vanne, que je t'ai mis la vanne, que la vanne, ce soit pas celle que tu veuilles, je l'entends. Par contre, il manque une vanne. Ça, je peux te le garantir. Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Parce que pareil, pour recevoir des retours, il faut mettre en position de recevoir des retours. Il faut être
Peut-être
coachable.
enseignable, oui, c'est ça.
Si tu n'es pas coachable, poursuis ta route, c'est pas grave, tu arriveras au même endroit, mais un peu plus tard.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça que moi je trouve beau dans le stand-up, c'est que au moment donné, sur la même scène, tu vas trouver des gens pour qui c'est la première scène et pour d'autres c'est la 500e scène. Et ils sont tous dans le même train au même moment, mais on ne sait pas quel est voilà, où ils en sont de leur voyage. Et donc, quelqu'un qui est très naze maintenant, qui fait des trucs de merde, vraiment gênant et tout, bah, on va pas comment dire, le juger parce que il est à un moment de son voyage et peut-être qu'à un moment, ça va, il y aura un déclic, il va trouver ou elle va trouver, il va changer de chemin et peut-être que demain, ça va cartonner.
Tout à
Et
fait.
c'est ça qui est beau. Et ceux qui croient être déjà arrivés et qui se cassent la gueule, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de. Voilà. Tu peux
Et
pas les
donc,
pistonner. Il faut qu'ils soient là.
voilà. Et si vous voulez être co-auteur, donc donnez gratuitement, allez vers vos affinités, soyez vous-même, ne vous inventez pas une vie. Donnez ce que vous savez faire.
Apprenez à écrire aussi, déjà.
Apprenez à écrire, c'est très bien. Et voilà, et typiquement, je ne peux pas être co-auteur de romans. Je n'ai pas la spécialité, c'est pas le médium que je comprends. Si j'interviens demain sur une pièce de théâtre, je ne peux pas intervenir sur la structure d'une pièce de théâtre parce que ce n'est pas des codes que je comprends très bien. Je peux intervenir sur les blagues, sur le punch, sur les dialogues, mais je ne peux pas intervenir sur la pièce réellement parce que je n'ai pas suffisamment absorbé cette méthodologie-là. Mais ça vaut le coup de le dire aussi. N'hésitez pas à dire, voilà, là je suis sur un spectacle où le sujet... Je ne suis pas spécialiste du sujet, alors que c'est un spectacle thématique. Mais je l'annonce de suite, et je n'interviendrai pas sur ce sujet-là. Mais par contre, je peux intervenir sur tout ce qui entoure, c'est-à-dire sur la technique, sur le rythme, sur tout ça. Mais je l'annonce direct. Et si la personne dit, ah non, mais moi, je voulais quelqu'un qui raffirme justement la thématique, ah, alors cherche quelqu'un d'autre, mon ami. Mais donner gratuit, donner en tant qu'auteur, donner gratuit au début, amorcer les relations. Et c'est après que vous allez récolter ensemble. Et. Encore une fois, moi je donne gratuit. Et s'il y a quelqu'un qui je donne gratuit, il a l'impression de m'avoir volé, je ne peux pas le convaincre que ce n'est pas le cas. Ok, je t'ai donné gratuit un retour de 10 minutes, et toi tu as l'impression de me l'avoir pris de force gratuit, que tu es malin, que tu es. Il n'y a pas de souci parce que moi je voulais bosser avec toi sur plus, sur une heure. Je voulais qu'on partage les bénéfices de ce qu'on faisait ensemble.
Bah oui.
Si tu ne vois pas ça, je ne peux pas t'en convaincre. Je ne peux pas te convaincre que le prochain spectacle sera mieux quand on sera en équipe. Impossible. Donc, ça, il fallait pas qu'on travaille ensemble.
Ah oui, c'est ça, c'est comme dit l'autre, quand tu prêtes 20 balles à quelqu'un et que tu ne le vois plus jamais, c'est 20 balles très bien dépensées.
Ah.
La personne ne va jamais te les rendre, elle ne va pas oser te parler. Et bon, et moi, en ce moment, je délègue mon écriture. Donc, si vous voulez des auteurs, il y a des fois, en ce moment, j'ai pas mal de commandes qui tombent d'écriture et je suis en train de les déléguer à deux artistes de Toulouse qui ont déjà écrit des trucs pour moi, etc. Donc moi, je parle aux clients, j'essaie de comprendre la problématique et après, je briefe les gens. Donc, si vous voulez être auteur et que vous pouvez travailler avec une deadline, genre rigide, dès que le client commande, la montre commence à tourner. Donc, il faut livrer à un moment donné. Et il n'y a pas de « Ah, ça n'a pas sonné le réveil ». Non, c'est « Il faut le faire ». Vous m'envoyez un essai personnel, vous me racontez en 1 000 mots un épisode de votre vie et que ce soit drôle. Voilà, vous mettez des blagues, vous faites ça de façon drôle. Si vous êtes bon, si ça me fait rire, peut-être qu'on peut, je peux vous déléguer ou faire bosser sur des trucs et vous faire travailler le... Mais là, c'est pour de vrai, c'est...
Donc vous contactez Scott via
Contactez,
Instagram.
vous me contactez, vous me contactez, vous m'envoyez déjà un premier truc, 1 000 mots, un essai
Non,
personnel.
non, attends,
Voilà.
attends, c'est d'accord.
Allez.
Tu contactes via Instagram. Via Instagram, il récupère ton email et via tu les rebriefes et après, il t'envoie ça.
Allez,
Tu vois?
et on va voir. On va. Et si c'est bon, je lirai des paragraphes ici au podcast pour vous montrer à quel
Non,
point vous êtes
pourquoi
bon.
tu vas trop loin? Déjà, j'ai tous les
Vous faites
rires.
des nudes.
C'est trop. Voilà, on est mort. Passez une bonne semaine à
Allez.
Briac, Briac, Briac sur Instagram, à Scott Finn sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Allez, à que poteau tout le monde.